Hello, Mortimer! Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur?
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure, ah, vous parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillant numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose ce soir une émission spéciale réalisée par Christian et consacrée au plus célèbre des styles de la bande dessinée. Inventée par le dessinateur hollandais Joost Swart, l'expression « ligne claire » est apparue pour la première fois aux Pays-Bas en 1977 lors de l'exposition Tintin à Rotterdam. Liée indissociablement au style de Hergé, ce qu'on appelle « ligne claire » correspond à un graphisme sobre dont le souci premier est la netteté. Il s'agit, en systématisant le contour des objets, des personnages et des décors d'un trait à l'encre de même épaisseur, d'arriver à la plus grande clarté possible. Réalisme des décors, unité esthétique des plans, simplicité des couleurs, absence d'ombre et de hachures. Tout comme son héros à la houppette, Hergé aspire à la perfection et à la transparence. Ennemi du clair-obscur comme Tintin l'est des malfaiteurs, le dessinateur exige de sa bande dessinée un maximum de lisibilité en éliminant tous les éléments graphiques accessoires, mais aussi tout ce qui risque de nuire à la continuité du récit, car la ligne claire, ce n'est pas seulement le dessin, mais aussi le scénario, voire l'état d'esprit. On pourrait y déceler le désir d'un monde net et propre, où le moindre élément subversif est tempéré par le cadre.
Sire, c'est le jeune étranger.
Tintin.
Oui, sire. Je vous rapporte votre sceptre.
Par Saint Vladimir, je suis sauvé.
Pas tout à fait, sire. Tenez, lisez ces tracts. Je les ai trouvés sur un agent bordure stoppé à la frontière. Tenez.
Merci. Je vois. Très bien. Monsieur le maréchal.
Oui, sire.
Faites immédiatement arrêter Musler et ses complices. L'armée de campagne en position défensive à la frontière. Faites également occuper par nos troupes tous les points stratégiques.
Bien, sire.
Quant à vous, mon cher Tintin, je vous convie à la fête de la Saint-Vladimir, à l'issue de laquelle vous ne serez peut-être pas étonné d'être décoré de l'ordre du Pélican d'or.
Oh, sire, vraiment, je...
Il n'a jamais été décerné à un étranger. Mais je tiens à marquer ainsi ma reconnaissance et celle du peuple Sildave à votre égard.
L'émission de ce soir vous propose d'étudier plus en détail la ligne claire. Nous nous intéresserons au dessin selon Hergé et selon son ami et collaborateur Edgar Pierre Jacobs et nous écouterons même une interview de l'auteur de Blake et Mortimer avant, en fin d'émission, d'évoquer le mystérieux fantôme de l'école de Bruxelles.
Donne la plume pour que tu dessines la plus belle ville que t'aies connue, le plus bel hymne que t'aies voulu. Je te donne la plume, moi j'en veux plus. Je te donne la plume. Savoir vivre, parler, écrire et danser, pour rester ivre, bien éveillé. Je te donne la plume et mes conneries, garde-les. Voilà une heure que je t'attends, voilà mon cœur, prudence en sortant. Compter les heures depuis longtemps. Est revenu mon cœur déposé en sortant. donne la plume pour que t'inscrives perpétuellement la vie à construire ce mouvement si dur. Je te donne la plume, moi j'en veux plus. Voilà une heure que je t'attends. Voilà mon cœur prudent s'en sortant. Compter les heures depuis longtemps est revenu mon cœur déposer en sortant.
Le magazine de la bande dessinée sur RVE s'intéresse ce soir au dessin selon le créateur de Tintin. Pour parvenir à la ligne claire, ce style qu'il a codifié et dont le principe premier est la netteté, Hergé dessine sans relâche, reprend, rature et grâce à un système de calques successifs, dégage enfin le trait le plus souple et le plus expressif, pour reprendre les propos qu'il tenait au journaliste Numa Sadoul en 1983. Il serait cependant inexact de fixer le début de la ligne claire à Hergé. Celui-ci s'est en effet inspiré d'œuvres antérieures. Il apparaît en fait que les caractéristiques de base de la ligne claire, très simple à plat de couleurs, sont initialement liées aux contraintes posées par les techniques d'imprimerie des périodiques enfantins. La ligne claire trouve donc ses racines dans les débuts de la bande dessinée. Et il n'est pas étonnant d'en retrouver des éléments chez Christophe, l'auteur du Sapeur Camembert, ou chez Pinchon, celui de Bécassine. Mais c'est probablement l'influence d'Alain Saint-Augan, l'auteur de Zig et Puce, qui se retrouve la plus nettement par la suite dans la conception hergéenne de la bande dessinée. Alors quelles sont, très précisément, les caractéristiques du graphisme élaboré par le dessinateur de Tintin, ce style que l'on appelle la ligne claire ? La première de ces caractéristiques, c'est le contour systématique, ce trait noir d'épaisseur régulière, identique pour tous les éléments du dessin, personnages, vêtements ou décors. La seconde, c'est la couleur en aplats, pas d'effet d'ombre et de lumière, même de nuit. Les effets d'ombre par hachure sont évités par l'auteur de Tintin. Mais on peut ajouter à cela d'autres éléments systématisés par Hergé dans le même but permanent d'améliorer la lisibilité de l'œuvre, le réalisme des décors, la régularité des strips, peu de débordements d'images sur plusieurs strips ou de modifications de taille des strips d'une page à l'autre, chaque case étant elle-même entourée d'un trait simple. Enfin, il ne faut pas oublier que Hergé est aussi, avant toute chose, un maniaque du scénario parfait et que le dessin se met, pour lui, au service du récit, d'où un usage très large de l'ellipse et la suppression presque totale de toute forme de récitatif.
Seigneur capitaine !
Capitaine ! Zorrino !
Cette vache, c'est pas possible, je rêve. Ce n'est pas lui, c'est impossible.
Zorrino !
Si, 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 sa voix de Tintin, capitaine.
Vite, descendons par les rochers jusqu'au bas de la chute d'eau. Vite, prends la corde, Zorrino, on ne sait jamais.
Capitaine !
Tintin, où êtes-vous ?
Ici, derrière la chute d'eau. Regardez bien, juste au-dessus des tourbillons.
Oh, Tintin, toi pas blessé ?
Vas-y, les gratinures. Écoutez-moi, capitaine. Accrochez la corde solidement à un rocher. Lancez-moi l'autre bout et suivez-la pour passer sous la cascade.
Mais Tintin a dit, Seigneur.
La ligne claire, ce style qui privilégie l'identité et le mouvement, hérité du maître incontesté d'Hergé Alain Saint-Augan, deviendra celui de toute une génération qui compte des auteurs comme Jacobs, l'auteur de Blake et Mortimer, Martin, le père d'Alix, ou Leloup, le créateur de Yoko Tsuno. Ce groupe de dessinateurs sera regroupé sous la dénomination « École de Bruxelles ». On y retrouve la même rigueur dans la construction des planches, le dessin cerné, les bulles rectangulaires, le lettrage neutre, le serti noir. Plus ou moins remis en cause dans les années 70, le style dit « ligne claire » retrouve ses lettres de noblesse une dizaine d'années plus tard avec des auteurs qui en renouvellent les principes et l'esthétique.
D'acier.
Avant de soumettre son trait aux règles de la ligne claire, Hergé a commencé par dessiner dans un style humoristique. Edgar Pierre Jacobs, pour sa part, est parti d'un dessin réaliste à l'américaine. Interviewé en 1982, à l'occasion de la parution de son autobiographie « Un opéra de papier », le créateur de Blake et Mortimer confiait qu'il avait été influencé par le style d'Alex Raymond, l'auteur de « Flash Gordon ». Et pour cause, Jacobs travaillait alors pour le journal belge Bravo et c'était le début de la Seconde Guerre mondiale.
Alex Raymond sortait cette fameuse bande de science-fiction qui était nouvelle à l'époque. Et puis voilà que brusquement, Bravo s'aperçoit qu'elle n'a plus de matériel, puisque ça ne venait plus. Mais on n'avait pas fait, semble-t-il, attention au fait que les Américains étaient entrés en guerre. Une petite inattention, un petit détail. Et alors, à un certain moment, ils sont arrivés donc à leur dernière planche noire et blanc, qui arrivait là-bas, écrite en anglais, bien entendu, et dans lequel, qui se terminait par ceci, la semaine prochaine, gardée par la foudre. Elle a dit, tirez votre plan maintenant, trouvez-moi une suite à ça. Alors, on a trouvé une suite acceptable, et j'ai fait 5 planches, donc à la manière 2. Mais à ce moment-là, les Allemands, qui étaient probablement distraits, se sont rendus compte que les Américains étaient bel et bien en guerre. Et stop, tout a été arrêté. Il a fallu donc stopper en une planche. Il a fallu arrêter ce que nous venions si péniblement de commencer. On m'a demandé à ce moment-là, est-ce que tu ne pourrais pas faire une bande dans le genre de Flash Gordon, tout en n'étant pas Flash Gordon, mais qui rappellerait les personnages en question. Et j'ai fait Le Rayon U, qui était donc une histoire à la manière de... Mais tout ça, pour c'était dans le cahier des charges, enfin, il fallait faire plaisir aux clients. Et c'est quand cette histoire-là était bien partie que j'ai rencontré Hergé. Il s'est fait que nos deux côtés maniaques se sont entendus, parce qu'il est aussi difficile que moi. Et j'ai apporté donc ma quote-part. D'abord, il m'avait demandé de rencontrer pour discuter du coloriage, parce que le coloriage était une chose assez nouvelle pour lui, et Casterman voulait sortir des albums coloriés. Alors, nous avons une première entrevue où je lui ai passé quelques tuyaux à ce sujet. Et puis, quelques mois après, il m'a téléphoné pour demander si je ne voulais pas, si ça ne m'intéressait pas de travailler avec lui. Alors, comme mon histoire marchait fort bien à Bravo, nous avons fait une espèce de gentleman agreement, c'est-à-dire que je travaillais le matin pour lui, j'emportais même du boulot à la maison, et alors, à partir d'une certaine heure, je travaillais pour moi. Ça fait que nous avons travaillé comme ça jusqu'à la libération. Et on a refait complètement le Lotus Bleu, le Sceptre d'Ottokar, les 7 boules de cristal, et puis et d'ailleurs d'autres coloriages, enfin, sur les histoires, même Tintin au Congo. Tintin, on a commencé par Tintin au Congo, et puis Tintin en Amérique. Mais les grands albums qui ont été vraiment redessinés sont le Lotus Bleu et le Sceptre d'Ottokar, qui a été complètement rhabillé, on l'a balkanisé. Enfin, c'est ça.
RVE, positivement différent.
Captivant, le magazine de la bande dessinée sur RVE s'intéresse ce soir à un style de dessin, la ligne claire.
Que faites-vous, Blake ?
Je vais tourner ici. Quittons la caravane de police. Inutile de donner d'explications au commissaire.
Où allez-vous ?
Sur le chantier de Groß-Grabenstein. Il faut descendre dans le tombeau de Tanit Nara. C'est notre seule chance de retrouver Ulrich.
Bien découvert la chambre d'Horus, n'est-ce pas ? Le trésor d'Aknaton ?
Je le crois.
En ce cas, vous avez raison. Avant de quitter le Caire, il faudra remplir ses poches jusqu'au bord.
Allez, vite ! Venez par ici. J'ai vu Charquet travailler à cette galerie à l'insu de Groß-Grabenstein.
Ah oui, le docteur m'a dit que c'était un ancien cheminement de voleurs qui se terminait en cul-de-sac.
Ça m'étonnerait. Tenez, vous allez porter la lampe, Mortimer. Moi, je prends ce pic et je vais passer devant. Au premier signal, vous éteindrez.
D'accord.
Ligne claire ou pas ligne claire ? La question torture les puristes. Il est vrai que le dessin du créateur de Blake et Mortimer, Edgar Pierre Jacobs, n'a de prime abord pas grand-chose à voir avec le trait caractéristique des aventures de Tintin. Pourtant, Jacobs est incontestablement l'autre grand inspirateur du courant ligne claire. Comme il l'expliquait lui-même dans l'interview que nous avons pu écouter tout à l'heure, Jacobs a joué un rôle non négligeable dans la mise au point du style RG1. Lors de sa collaboration avec Hergé à partir de 1944, Jacobs, chargé de la révision des premiers albums de Tintin, opère de profonds changements dans ceux-ci. C'est Jacobs qui dessine les décors et trouve l'équilibre idéal entre réalisme et simplicité. C'est également à Jacobs que l'on doit la mise en couleur des planches. Il instaure ainsi la règle de l'aplat. Une réussite éclatante que l'on constate en particulier dans la suite de sa collaboration avec Hergé, dans le Temple du Soleil notamment. Le graphisme de la série créée par Jacobs, Blake et Mortimer, ne déroge quant à lui pas fondamentalement au principe de la ligne claire, et plus généralement au principe dicté par Hergé pour l'ensemble des séries paraissant dans les pages du journal de Tintin. Le trait est bien régulier, noir, constant, la seule exception est constituée par les fameuses hachures caractéristiques du dessin jacobsien pour ce qui est du jeu d'ombre et de lumière, des hachures malgré tout discrètes, en particulier dans les premiers albums de la série. Inspirateur de ce principe dans les albums de Tintin, Jacobs respecte bien sûr la règle de l'aplat pour la mise en couleur. La régularité des strips est aussi respectée, enrichie d'un souci presque obsessionnel de la disposition des cases dans la page, de manière esthétique et si possible symétrique. Comme Hergé, Edgar Pierre Jacobs est scénariste avant d'être dessinateur et le dessin est entièrement au service du récit. Enfin, le principe de réalisme est encore plus poussé par Jacobs que par Hergé, ce qui amène rapidement le public à voir Blake et Mortimer comme l'équivalent de Tintin et Milou pour adultes. D'ailleurs, et contrairement à son ami qui ne voyageait jamais, Jacobs s'est rendu autant que possible dans les pays qu'il dessinait.
Je suis allé à Londres, et d'ailleurs ça se sent, il paraît que Londres ne ressemble plus du tout au Londres maintenant, oui. Mais le lecteur n'a pas l'air de s'en plaindre. Enfin. Au contraire, c'est une espèce de... c'est de l'historique, quoi. J'ai fait la même chose pour l'Égypte. Et là aussi, les gens ont l'air d'accepter ça, alors que tout a changé là-bas. Enfin. Je suis même allé soumettre mon scénario au directeur des musées égyptologiques à Bruxelles, qui, pour l'époque, s'est montré magnanime, enfin, parce qu'à ce moment-là, tout le monde sait que la bande dessinée est absolument déconsidérée. Et il a bien voulu m'accorder une interview et répondre à mes questions. Je l'ai bien embêté pendant plusieurs mois. Enfin. Il m'a prêté des bouquins aussi.
Aïni kipkeo, galbek hanin, melek hazin. Medjek shunum, melek ulyum, ulit mechlum. Rak bin nes, tumshi fisharia, awes. Ukulila, gudem belha, testaneha. Habit wiz wiz yel bulbul. Umfi beri rak plum. Diluli ulit mechbul. Mizik tibaz yel dhalul. Habit wiz wiz yel bulbul. Umfi beri rak plum. قالولي وليد معبول مزال تبس يا بحلول تلعب مزيان بلا ماندولين يا ولدي بومبينو موزيك عشعل نبعتها وحلوه كيما ريحة النيل غني غني بصوت حنين يا ولدي بومبينو فهمني واش راك تتمنى لازم عيال يوم تنسيها حبيت وز وز البلبل وفي بالي راك بلوم قالولي وليد محبول
حبيت وزوز يا البلبل
دومينو
وفي بيري راكت نوم
دومينو
قالوا لي وليد معبول
دومينو
مزك دبس يا البحلول
لازم تحبس نزلت صغير زنت ليا بركك مزوخ بيضة بسخير وليت رجل وكيما كبر دير تربوش يا ابو حلي انت تحبها ما يجمل مكتوب حبيت وزوز البلبل وفي بالي راك تروم قالولي وليت محبول مزك تبز يا البحلول حبيت وزوز البلبل تلعب مزيان بلا ماندولين يا ولدي بومبينو الموسيقى شعل نبعتها وحلوة كيما ريح النيل غني غني بصوت حنين يا ولدي بومبينو فهمني واش راك تتمنى لازم عيا اليوم تنساها حبيت وزوز يا البلبل وفي بالي راك تروم قالولي وليت محبول مزلت بس يا البحلول حبيت وزوز يا البلبل وفي بيري راك تنوم قالولي وليت معبول مزلت بس يا البحلول حبيت وزوز يا البلبل وفي بيري راك تنوم قالولي وليت معبول مزلت بس يا البحلول
كابتيفون Une émission de Marc Dacier. Dans un livre paru en 2002 et intitulé « À l'ombre de la ligne claire », Benoît Mouchard lève le voile jeté pendant plusieurs décennies sur le mystérieux Jacques Van Melkebeck. Il raconte comment ce proche collaborateur d'Hergé et d'Edgar Pierre Jacobs, qui a eu une influence déterminante sur leurs œuvres, a dû vivre dans la clandestinité créative à cause des faits de collaboration qui lui ont été reprochés. Pourtant, depuis des décennies, tous les amateurs de BD ont entendu parler du fantôme de l'école de Bruxelles. Avez-vous lu mon nom ? Un peu long, un peu difficile à prononcer, n'est-ce pas ? Eh bien, appelez-moi Jacques, l'ami Jacques, tout bonnement. Entendu ? C'est en ces termes familiers que se présentait Jacques Van Melkebeck aux jeunes lecteurs du journal belge Le Soir, le 20 juin 1940. C'était la guerre, et l'occupant allemand avait pris le contrôle du Soir, que l'on surnommait de fait « le Soir volé ». Pour l'état civil, Jacques Alexandre Van Melkebeck est né le 14 décembre 1904 à Bruxelles. Sous ce patronyme, il a signé des centaines de portraits de scènes animalières, de marines et de scènes oniriques, mais aussi de nombreux articles pour la presse collaborationniste belge sous l'occupation. Après l'épuration, pour des raisons apparemment judiciaires, ses activités alimentaires furent, au mieux, gratifiées de pseudonymes, Jacques Alexander ou Jean Jacquet, au pire, non signés. Et c'est sous couvert d'anonymat qu'il fut le premier rédacteur en chef du journal Tintin et écrivit des scénarios pour Corentin de Paul Cuvelier et Hassan et Kadour de Jacques Lodi. Depuis sa disparition en juin 1983, le microcosme de la bande dessinée prête à l'ami Jacques une foule de faits et méfaits. Pour sa gloire, certains le prétendent à l'origine des meilleurs scénarios de Tintin et de Blek et Mortimer. Le Temple du Soleil, Objectif Lune, Le Mystère de la Grande Pyramide ou encore La Marque Jaune.
Toute la garnison de la tour en état d'alerte, chacun à son poste.
Halte !
C'est là-bas, sergent. La tour des joyaux.
En avant, vite !
Par ici ! À moi !
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Voyez ! Voyez ! La porte !
Ouverte !
Montez vite ! Soyez prêts à tirer !
La porte est ouverte ! On est entré dans la chambre du trésor !
La couronne ! On a volé la couronne, on me regarde !
La couronne !
Voyez, sergent ! Sur le mur, ce dessin à la craie, la marque jaune.
Jacques Van Melkebeck, le fantôme de l'école de Bruxelles, était également artiste peintre. D'aucuns affirment que s'il n'avait pas commis un incident de parcours, ses œuvres picturales trouveraient une place dans les musées. En 1986, Thierry Gronstein écrivait dans les cahiers de la bande dessinée que Van Melkebeck était aussi, et peut-être surtout, un peintre de talent, consignant ses rêves sur la toile comme firent les surréalistes et multipliant les scènes de cirque, avant d'ajouter que ce scénariste, qui fut toujours relégué dans l'ombre, attend encore d'être réhabilité.
Pour écrire son livre, notre ancien collègue Benoît Mouchard, il a animé l'émission Comic Strip sur RVE, a consacré 2 années d'enquête à Jacques Van Melkebeck. Il a réuni le maximum d'indices et de témoignages, tant oraux qu'écrits. Surtout, les archives de la Fondation Hergé et de la Fondation Jacobs lui ont été exceptionnellement ouvertes, offrant ainsi à ses recherches une foule de documents inédits. À l'ombre de la ligne claire est publié par les éditions Vertige Graphique. C'est la fin de cette émission spéciale de Captivant consacrée à la ligne claire et réalisée par Christian. On se quitte comme d'habitude avec quelques notes de jazz. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine.
Thank you.